Muad Dib pouvait, certes, voir l'avenir, mais il faut connaître les limitations de ses pouvoirs. Pensez à la vue. Vous avez des yeux, mais ils ne peuvent voir sans lumière. Au fond d'une vallée, vous ne pourrez voir ce qui se trouve au-delà de la vallée. De la même manière, Muad Dib n'avait pas toujours la possibilité de contempler ce terrain mystérieux de l'avenir. Il nous dit qu'un détail obscur d'une prophétie, tel mot choisi au lieu et place d'un autre, pouvait modifier totalement l'aspect de cet avenir. Il nous dit « La vision du temps est vaste, mais lorsque vous le traversez, le temps devient une porte étroite. » Et il luttait toujours contre la tentation d'emprunter les voies dégagées, sûres, disant « Ce chemin n'aboutit qu'à la stagnation. » Extrait de « L'éveil d'Arrakis » par la princesse Irulan. À l'instant où les ornithoptères surgissaient de la nuit, au-dessus d'eux, Paul saisit le bras de sa mère. « Ne bougez pas !» Puis, dans le clair de lune, il vit l'appareil de tête qui s'apprêtait à se poser. Et à la façon dont ses ailes brassaient l'air, il identifia les mains téméraires qui étaient aux commandes. « Idaho !» souffla-t-il. L'ornie et ses compagnons se posèrent au creux du bassin comme de grands oiseaux revenant au nid. Déjà, Idaho était dehors et se ruait dans leur direction avant même que le nuage de poussière fût dissipé. Deux silhouettes en tenue fremen le suivaient, et Paul reconnut en l'une d'elles Kynes. « Par là !» lança le grand planétologiste barbu. Et il s'élança sur sa gauche. Derrière lui, d'autres fremen lançaient des housses sur les ornithoptères qui se transformèrent en une rangée de dunes. Idaho s'arrêta devant Paul et salua. « Monseigneur, les Fremen ont préparé un refuge proche où nous. Et cela là-bas ?» Paul désignait, au-dessus de la lointaine colline, les éclatements de fusées, les faisceaux mauves des lasers qui fouillaient le désert. Un sourire apparut sur le visage large et placide d'Idaho. « Monseigneur, sire, je leur ai laissé une petite sur... » Une lueur blanche, flamboyante, aussi intense que le soleil, projeta soudain leurs ombres sur le rocher. D'un seul mouvement, Idaho saisit Paul d'un bras, jeta Jessica sur son épaule et les projeta vers le fond du bassin. Ils roulèrent dans le sable tandis que le tonnerre de l'explosion grondait au-dessus d'eux. L'onde de choc arracha des fragments de rocher à l'entablement où ils se trouvaient encore la seconde d'avant. Idaho s'assit en époustant le sable de sa tenue. « Pas les atomiques familiaux !» s'écria Jessica. « Je croyais... » « Tu avais laissé un bouclier là-bas, » dit Paul. « Un grand, » dit Idaho. « Et à pleine puissance, le premier laser qu'il a touché... » Il haussa les épaules. « Fusion subatomique, » dit Jessica. « C'est une arme dangereuse. » « Non, pas une arme, madame, mais un moyen de défense. Ces canailles y réfléchiront à deux fois maintenant. » avant d'utiliser des lasers. Les Fremen les entouraient. « Nous devrions nous mettre à l'abri, ami, » dit l'un d'eux d'une voix basse. Paul se redressa et Idaho soutint Jessica. « Cette explosion va certainement attirer l'attention, sire, » dit-il. « Sire, » songea Paul. Adressé à lui, c'était un mot bien étrange. Sire avait toujours été son père. Ses pouvoirs de prescience réapparurent brièvement. Il se vit en proie à cette sauvage conscience raciale qui entraînait l'univers des hommes vers le chaos. Cette furtive vision le bouleversa et il se laissa guider par Idaho vers un éperon rocheux, à la lisière du bassin. Les Fremen creusaient le sable à cet endroit avec leurs outils à compression. « Puis-je prendre votre paquet, sire ?» demanda Idaho. « Il n'est pas lourd, Duncan. » Vous n'avez pas de bouclier corporel. Voulez-vous le mien ? Il jeta un coup d'œil vers la colline lointaine. Je doute que les lasers nous menacent encore. Garde ton bouclier, Duncan. Ton bras droit me suffit. Jessica remarqua les effets du compliment, la façon dont Idaho se rapprocha un peu plus de Paul, et elle songea « Mon fils sait comment traiter les siens. » Un Fremen déplaça un rocher, découvrant un passage qui s'enfonçait dans le sol. Une couverture de camouflage était prête pour masquer l'orifice. « Par ici !» dit un des Fremen en s'engageant le premier sur les degrés de roc qui s'enfonçaient dans l'obscurité. Derrière eux, le camouflage retomba sur le clair de lune. Une pâle lueur verte apparut au-devant de leur route, dessinant les murailles et les marches. Le passage s'orientait sur la gauche. Les Fremen étaient tout autour d'eux maintenant. Au-delà d'un tournant, ils empruntèrent un autre boyau qui descendait toujours et débouchèrent dans une chambre souterraine, aux parois grossièrement taillées. Kainz leur faisait face. Il avait rejeté en arrière le capuchon de sa jeba. Le col de son distil luisait dans la clarté verte. Sa chevelure et sa barbe étaient hirsutes. Sous ses épais sourcils, ses yeux étaient deux puits d'ombre. En cet instant, le planétologiste songeait « Quelle raison ai-je d'aider ces gens ? Jamais je n'ai rien fait d'aussi dangereux. Cela peut signifier ma perte en même temps que la leur. » Puis il regarda Paul bien en face et il vit un enfant qui venait d'assumer son fardeau d'adulte, qui avait rejeté le chagrin pour accepter le rôle qu'il devrait jouer, celui de duc. Et il comprit en cette minute que le duché était toujours debout, du seul fait de l'existence de ce jeune garçon. Et c'était là, très certainement, une chose que l'on ne pouvait prendre à la légère. Le regard de Jessica courait par toute la salle. Ses sens enregistraient cet endroit dans la manière Bene Gesserit. Un laboratoire, un lieu plein d'angles et d'arêtes à la mode ancienne. Voici donc l'une de ces stations écologiques expérimentales de l'Impérium que désirait mon père et dont il voulait faire des bases avancées, dit Paul. Que son père désirait, songea Kainz. Et à nouveau il se demanda « Pourquoi suis-je là ?» À prêter assistance à ces fugitifs, il serait si facile de les livrer aux Harkonnen maintenant pour acheter leur confiance. Imitant sa mère, Paul promenait sur les lieux son regard, établissant la carte gestalt de la salle. Murailles de roc nu, table de travail à une extrémité, instruments au-dessus, cadran lumineux, plan gris d'où s'élevaient des tiges de verre. Sur le tout, l'odeur de l'ozone. La salle possédait un recoin où plusieurs Fremen s'étaient regroupés. De là s'élevaient de nouveaux bruits, allaitements de machines, plaintes de courroies et de poulies. Sur la paroi opposée, Paul identifia de petites cages. Il y avait des animaux à l'intérieur. « Vous avez parfaitement identifié cet endroit, » dit Kainz. « Mais pourquoi l'utiliseriez-vous, Paul Atreide ?»«
Pour rendre ce monde habitable aux humains, » dit Paul.
Peut-être est-ce pour cela que je les aide, se dit Kainz. Brusquement, les machines se turent. Dans le silence, un animal couina dans l'une des cages, puis s'interrompit, comme honteux. En regardant dans cette direction, Paul s'aperçut que les animaux étaient de petites chauves-souris à ailes brunes. Une mangeoire automatique desservait l'ensemble des cages. Un Fremen surgit du recoin dissimulé et s'adressa à Kainz.
Liet, le générateur de champ ne fonctionne pas. Il m'est impossible de nous isoler des détecteurs de proximité.
Vous ne pouvez pas le réparer ?
Demanda Kainz.
Pas immédiatement. Les pièces...
Le Fremen haussa les épaules.
Oui,
dit Kainz.
En ce cas, nous passerons des machines. Reliez une pompe à air manuel à la surface.
Immédiatement.
L'homme s'éloigna. Kainz se tourna vers Paul.
J'aime votre réponse, dit-il.
Jessica nota le timbre grave, souple, une voix royale, accoutumée à donner des ordres. Et l'homme avait dit Liet.
Liet était l'alter ego Fremen du planétologiste, son autre visage.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre aide, docteur Kainz, dit-elle.
Nous en reparlerons,
murmura Kainz, puis s'adressant à l'un de ses hommes.
Du café d'épices dans ma chambre, Shamir.
Tout de suite, Liet.
Kainz désigna une arche ouverte dans une paroi.
Je vous en prie. »
Jessica eut un acquiescement royal avant de le suivre, tandis que Paul, de la main, indiquait à Idaho de monter la garde. Le passage, profond de deux pas, accédait à une lourde porte ouvrant sur une pièce carrée, illuminée par des brilleurs dorés. Jessica frôla la porte de la main et eut la surprise de reconnaître du cristacier. Paul fit trois pas dans la pièce et déposa son paquet sur le sol. Il entendit la porte se refermer sur eux, étudia les lieux. La pièce devait mesurer environ 8 mètres de long. Les murs, ici encore, étaient taillés dans le roc. Des armoires de classement métallique se détachaient sur ce fond ocre à leur droite. Un bureau bas occupait le centre de la pièce. Il était recouvert de verre opaline, constellé de bulles jaunes, et entouré de 4 chaises à suspenseurs. Kynes contourna Paul et avança un siège pour Jessica, qui prit place tout en remarquant la manière dont son fils sondait les lieux. Paul demeura debout le temps d'un autre battement de cils. Une subtile différence dans les flux d'air lui révélait qu'il existait une issue secrète derrière les armoires métalliques.
« Voulez-vous vous asseoir, Paul Atreides ?» demanda Kynes.
« Comme il évite de me donner mon titre, » se dit Paul. Il accepta la chaise et demeura silencieux tandis que Kynes prenait place.
« Vous pensez qu'Arrakis pourrait être un paradis ?» dit Kynes. « Pourtant, comme vous le constatez, l'Impérium n'envoie ici que ses spadassins les mieux entraînés afin de lui rapporter l'épice. »
Paul leva le pouce auquel il avait passé l'anneau ducal.
« Voyez-vous cet anneau ? » demanda-t-il.
« Oui. »
« Savez-vous ce qu'il signifie ?»
Jessica se tourna pour le regarder avec attention.
« Votre père a trouvé la mort dans les ruines d'Arrakis, » dit Kynes. « Légalement, vous êtes désormais duc. »
« Je suis un soldat de l'Impérium, » dit Paul.
« Techniquement, un spadassin. »
Le visage de Kynes se fit sombre.
Même alors que les Sardaukars de l'Empereur sont rassemblés autour du corps de votre père?
Les Sardaukars sont une chose. La source légale de mon autorité en est une autre.
Arrakis a ses propres façons de déterminer à qui revient le sceptre, dit Kynes.
Jessica porta son regard sur lui et songea. Il y a de l'acier en cet homme et nul n'a eu le courage de s'y attaquer.
Nous avons besoin d'acier.
Paul joue un jeu dangereux.
La présence des Sardaukars sur Arrakis, dit Paul, indique à quel point notre bien-aimé empereur craignait mon père. À présent, c'est moi qui vais donner à l'empereur Padishah toute raison pour craindre le...
Mon garçon, s'écria Kynes.
Il est des choses qui...
Vous voudrez bien me dire sire ou monseigneur?
Doucement, songea Jessica.
Kynes regarda Paul et Jessica décela de l'admiration dans son expression. De l'admiration et une trace d'humour.
« Sire, » dit-il.
« Pour l'empereur, je suis une gêne, » reprit Paul. « Je suis une gêne pour tous ceux qui entendent se partager Arrakis. Au fil des ans, cette gêne deviendra telle qu'elle finira par les étouffer, par les tuer. »«
Des mots, » dit Kynes.
Paul posa son regard sur lui et déclara lentement « Sur ce monde court la légende du Lihan al-Raib, la voix d'outre-monde, celui qui conduira les Fremen au paradis.
Vos hommes ont superstition, » s'écria Kynes.
« Peut-être, ou peut-être pas. Parfois les superstitions ont de bien étranges racines et des surjons plus étranges encore.
Vous avez conçu un plan, c'est évident. Sire.
Vos Fremen pourraient-ils m'apporter une preuve positive de la présence de Sardaukars en uniforme Harkonnen sur cette planète?
Très probablement.
L'empereur remettra un Harkonnen au pouvoir, dit Paul. Peut-être même Rabban, la bête. Qu'il en soit ainsi. Et que l'empereur, s'étant mis de lui-même dans l'impossibilité d'échapper à sa culpabilité, affronte l'éventualité d'un acte d'accusation déposé devant le Landsrat.
Et qu'il réponde donc lorsque...
Paul !
Lança Jessica.
En admettant que le Haut Conseil du Landsrat accepte ce cas, dit Kynes, il ne pourrait y avoir qu'une issue. Un conflit généralisé entre l'Imperium et les grandes maisons.
Le chaos, dit Jessica.
Mais je soumettrai l'affaire à l'empereur lui-même, dit Paul, et je lui donnerai le choix.
Un chantage?
Demanda Jessica d'un ton sec.
L'un des instruments du pouvoir, vous l'avez dit vous-même, fit Paul.
Et sa mère perçut l'amertume dans sa voix.
L'empereur n'a pas de fils, seulement des filles.
Tu viserais le trône?
Demanda Jessica.
Jamais l'empereur ne courra le risque de voir l'impérium s'effondrer dans la guerre totale, les planètes ravagées, le désordre de tous côtés. Non, il ne risquera jamais cela.
C'est un choix désespéré que vous offrez là, dit Kynes.
Que craignent avant tout les grandes maisons du Landsrat? Ce qui se passe actuellement sur Arrakis. Les Sardaukar triomphant d'elles, une à une. C'est pour cette raison que le Landsrat existe. Il est le ciment de la Grande Convention. Ce n'est que par l'union que les grandes maisons peuvent tenir tête aux forces impériales.
Mais elles sont...
C'est bien ce qu'elles craignent, dit Paul. Arrakis deviendrait un véritable cri de ralliement. Chaque maison se reconnaîtrait dans mon père, craindrait d'être écartée des autres pour être mieux abattue.
Kynes s'adressa à Jessica. Son plan peut-il réussir?
Je ne suis pas Mentat, dit-elle.
Mais vous êtes Bene Gesserit.
Elle lui décocha un regard perçant et dit, il y a de bons et de mauvais aspects dans son plan. Tout comme dans n'importe quel plan à ce stade. Et tout plan dépend autant de sa conception que de son exécution.
La loi est l'ultime science, cita Paul.
Ainsi est-il écrit au-dessus de la porte de l'empereur. J'entends lui montrer la loi.
Je ne suis pas certain de pouvoir faire confiance à celui qui a conçu ce plan, dit Kynes.
Arrakis a le sien propre qui... Depuis le trône, dit Paul, je pourrais, d'un geste de la main, faire d'Arrakis un paradis. Tel est le prix que je vous offre pour votre soutien.
Kynes se raidit. Ma loyauté n'est pas à vendre, sire.
Par-dessus le bureau, Paul affronta le froid regard de ses yeux bleus, étudiant ce visage barbu, cet air d'assurance impérative. Un sourire dur se forma sur ses lèvres.
Bien dit. Je vous fais mes excuses.
Kynes répondit à son regard.
Nul Harkonnen n'a jamais admis son erreur.
Peut-être n'êtes-vous pas comme eux, vous, les Atreides.
Ce pourrait être une faille de leur éducation. Mais vous dites que vous n'êtes pas à vendre, et pourtant je pense offrir un prix que vous devez accepter. En échange de votre loyauté, je vous offre la mienne. Totalement.
Mon fils a la sincérité des Atreides, songea Jessica. Cet honneur terrible, presque naïf, qui est en vérité une force formidable.
Elle vit que les paroles de Paul avaient touché Kynes.
C'est absurde, dit ce dernier. Vous n'êtes qu'un enfant, et je suis le duc, dit Paul.
Et je suis un Atreide. Jamais aucun Atreide n'a rompu un tel serment.
Kynes se taisait.
Lorsque je dis totalement, reprit Paul, je veux dire sans réserve. Pour vous, je donnerai ma vie.
Sire, s'écria Kynes,
et ce fut comme si le mot lui était arraché. Jessica vit qu'il ne parlait plus soudain à un garçon de 15 ans, mais à un homme, à un supérieur. Cette fois, il avait dit « sire » avec sincérité. En un tel moment, il donnerait sa vie pour Paul, se dit-elle. Comment les Atreides peuvent-ils accomplir ces choses si rapidement, si aisément?
« Je sais que vous êtes sincère, » reprit Kynes. « Pourtant, les Harkonnen... »
Derrière Paul, la porte fut ouverte à la volée. Il se retourna et découvrit une vision de violence, des cris, un fracas d'acier, des visages grimaçants comme des masques de cire.